Andrew Scopa, qui était un des principaux chefs de la mafia, était un informateur de police et une source pour des journalistes. Il a été assassiné le 21 octobre 2019 en face du gymnase où il allait s'entraîner. C'est le résultat de l'enquête des journalistes Éric Thibault et Félix Séguin, donc co-auteurs du livre Scopa et moi. On va aller rejoindre Paul Laplante, qui a été chef de l'escouade de Carcajou pour l'Est du Québec. Bonjour, Paul.
Bonjour,
Bernard. Et André Noël, journaliste d'enquête pendant de nombreuses années à la presse notamment. Bonjour, André.
Bonjour.
Paul Laplante, est-ce que ça vous a surpris d'apprendre que Scopa était une source pour la police et pour les journalistes?
Bah, disons que c'est surprenant qu'il soit informateur, effectivement, par le statut qu'il avait, bien entendu, et surtout informateur à un journaliste. Quelle était sa motivation, etc. C'est la question que je me pose. Mais oui, c'est surprenant, effectivement.
André Noël?
Oui, bien, c'est ce qui est unique, en fait, c'est le niveau auquel il se situait, parce qu'on sait qu'entre l'automne 2015 et l'hiver 2017, il a été considéré comme chef intérimaire de la mafia. Ce n'est pas inhabituel que des journalistes aient des sources dans le milieu criminel, mais des sources à ce niveau-là, ça, c'est inhabituel. Et c'est aussi, ce qui est inhabituel, c'est la durée de cette collaboration, c'est-à-dire la relation entre Scopa et Félix Séguin, qui s'est quand même étendue depuis 2014 jusqu'à sa mort en octobre 2019. Ça, c'est effectivement deux choses qui sont assez inhabituel.
Paul Laplante, vous avez travaillé auprès du crime organisé, vous avez œuvré contre le crime organisé. Mettons les deux ou trois hypothèses pour lesquelles, les deux ou trois raisons pour lesquelles Scopa aurait pu vouloir être une source des journalistes, mettons. C'est quoi ses motivations?
Moi, je pense à la motivation première, je ne dis pas que c'était le cas avec M. Séguin, etc., mais souvent, ce genre de personnes-là vont se servir du contrôleur. On va dire que le gars qui contrôle la source, on va l'appeler contrôleur pour le discours, et vont transmettre de l'information qui est à l'occasion qui va être vraie et à l'occasion qui sera pas vraie. On l'a vu par le passé, plusieurs criminels l'ont fait avec des policiers. Avec les journalistes, honnêtement, moi je suis pas journaliste, c'est plus difficile à commenter. Mais par contre, au niveau des policiers, on l'a vu à plusieurs reprises que l'informateur, on va parler d'un informateur de haut niveau, va souvent divulguer au contrôleur, les deux gars qui le contrôlent, de la fausse information. Et là, ben, avec sa fausse information-là, si les contrôleurs sont pas vigilants ou ceux qui contrôlent les contrôleurs.
Tu peux te faire manipuler, là. Là, tu peux te faire manipuler.
Exactement. On l'a vu par le passé et c'est pas la première fois que ça est arrivé. Et c'est pour ça qu'il y a des procédures. Il y a des procédures au niveau de la police. C'est difficile pour moi de parler au niveau journalistique.
Mais je vais demander à André. André, quelles pouvaient bien être les motivations du COPA?
Ben, effectivement, la principale motivation, c'était de pouvoir fournir des informations qui allaient nuire à ses adversaires. Comme le dit M. Laplante, il faut faire attention, qu'on soit dans la police ou qu'on soit journaliste, il faut vérifier les informations ensuite. Et si je comprends bien, Félix Séguin, donc, recueillait des informations auprès de Scopa, mais il ne les écrivait pas comme ça du jour au lendemain, tout de suite, dans le journal. Il les vérifiait, il les corroborait avec ses sources, notamment avec ses sources policières, et rien n'indique que Félix a écrit des erreurs. En fait, ce qu'il a écrit, c'est vérifié. Alors, au départ, donc, il a pu jouir d'avoir une bonne source comme celle de Scopa, puis ensuite pour le corroborer. L'autre chose, je pense que c'est tout simplement humain. Je pense que vers la fin, surtout quand Andrew Scopa a vu que son frère s'était fait assassiner, il a pu sentir que sa fin était proche. Et puis, je pense qu'il a voulu laisser une trace sur cette petite planète que nous habitons tous et finalement aider un peu Félix Séguin et Éric Thibault à écrire un livre sur sa vie qui est quand même assez exceptionnel.
En quoi était-il exceptionnel, Scopa, André Noël? Qu'est-ce qui le démarquait des autres?
Ce qui, je trouve, le démarque un peu des autres, c'est que c'est un peu un self-made man. Si on regarde, par exemple, la famille Rizzuto, L'arrière-grand-père était un criminel membre du crime organisé, celui qui s'est fait assassiner à New York. Nick Rizzuto était le patriarche de la mafia. Vito était le parrain. Ses enfants, on voit que Leonardo a en partie repris la peau de Vito. Et donc, dans cette génération, on profite, d'une certaine façon, de la réputation, des contacts, de la richesse de la génération précédente, concrètement du père. Mm-hmm. Ici, Andrew Scopa, son père était un père absent, d'ailleurs, pour lequel il avait pas mal de mépris parce qu'il a abandonné la famille. Et il est né en Calabre, mais dès l'âge de 4 ans, arrive dans Parc Extension avec ses 5 frères et sœurs, famille très pauvre, et très rapidement, donc, se met à faire des petits crimes et des crimes de plus en plus sérieux. Au départ, probablement, effectivement, comme il l'a dit à Félix Séguin, pour nourrir sa famille. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est bâti lui-même, qui a constitué son propre clan et qui a réussi à se faire respecter au sein de la mafia et qui a réussi à obtenir même le respect de Vito Rizzuto, pour lequel il a un peu travaillé, avec lequel il a collaboré et envers qui il est resté loyal quand Vito Rizzuto a été arrêté et emprisonné à Florence, au Colorado. Alors, il a réussi à tirer son épingle du jeu de cette façon-là.
Et il est devenu millionnaire, il faut le dire. Hein? Il est devenu très riche, exactement. Exactement.
Il est devenu très riche. Et il s'est fait connaître, pour terminer, sur une note un peu plus sombre, ce portrait, comme un homme extrêmement violent, qui non seulement a tué des gens, a commandité des meurtres, mais aussi a torturé des gens. Alors, c'est le côté moins sympathique du personnage, si on peut dire.
Paul Laplante, Andrew Scopa, pour vous, c'était qui quand vous regardez le personnage? Comment était-il différent des autres? Et dans son comportement, il jouait avec les poignées de sa tombe. On s'entend, ce gars-là, en faisant ce qu'il a fait, il se condamnait à se faire tuer. Là. C'était pas mal clair, ça.
Ben, évidemment, au niveau de la guerre des mafios, ben, c'est sûr, lorsque t'es guerrier, on peut penser que là ou vers là, tu vas faire une planète. Et la chose qui me fascine dans ce dossier-là, c'est qu'il était informateur au niveau journalistique. Déjà que contrôler un informateur, c'est déjà excessivement difficile au niveau de sa sécurité. Et le travail qui a été fait là-dedans, travail journalistique, Séguin et compagnie, avec la police, que ce gars-là soit pas été, ait pas été qu'il y ait eu des attentats contre lui qu'il n'ait pas eu avant, c'est assez impressionnant.
Il fallait qu'il soit habile.
Habile et, hein? Et très habile et surtout, faut le mentionner, Félix Séguin et puis son chum, c'est pas évident rencontrer des sources, que tu sois à Montréal ou ailleurs, de façon sécuritaire. Et en plus, on peut penser, hors de tout doute, que Scopa régulièrement était travaillé par la police dans différents projets. Donc, la police est filatueuse sur Scopa. Donc, de façon officielle, la filature est aussi filature sur Félix Séguin. Ça fait beaucoup de monde. C'est impressionnant que qu'il ne soit pas passé rien avant tout ça au niveau de l'informateur. C'est fascinant. Il y a des gens qui ont travaillé très fort dans ce dossier-là, assurément.
Voilà, Paul Laplante, ancien chef de l'escouade de Carcajou pour l'Est du Québec. André Noël, journaliste d'enquête. Merci à vous deux.
Merci. Bonne fin de journée.
Le livre s'appelle Scopa et moi. Il est en vente en ligne présentement, en librairie demain. Le documentaire Scopa et moi sur Club Illico dès demain. Ah, c'est toute une histoire. Et juste avant d'aller à la pause, je vous le rappelle, vous vous rappelez du meurtre dans l'hôtel de Laval, là, le gars qui s'est fait tuer là, dans dans l'entrée, là? Bon, ben c'était le frère de Scopa. C'était le frère de Scopa. C'était Salvatore Scopa qui s'était fait tuer lors de la fête familiale dans l'hôtel Sheraton à Laval. Là. Tu vois, c'était toute une famille. Toute une famille. OK, on s'en va à la pause. Après, on va vous parler de cette histoire-là. Une compagnie qui vendait un modèle éco-responsable au niveau de la revalorisation des déchets, puis c'était des maudits fraudeurs.